Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua et c'est l'heure de l'interview avec en liaison Noélie Ortega. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission éducation, culture et participation citoyenne du parc naturel régional du Vercors. Et avec vous, nous avons Emeline Dumouya. Bonjour.
Bonjour.
Emeline, vous agissez au sein de la compagnie Tête en Terre et toutes deux, vous êtes ici pour nous parler d'un rendez-vous, plusieurs même, qui seront donnés sur le plateau du Vercors et dans le Diwa et qui s'intitule « Tous à l'abri ». Alors, avant tout, on peut peut-être présenter aussi ce partenariat, cette envie de travailler ensemble, sur quelle optique ?
Alors donc ce beau partenariat est né au cours de l'année 2025. Il est né autour d'un projet qu'accompagne le parc, projet qui s'appelle Abri et Cabane, depuis environ 2018, où il y a un petit groupe de travail qui s'est constitué au sein du périmètre du parc, regroupement des communes, l'ONF, des offices de tourisme, des communautés de communes, des gestionnaires de sites, bref, tout un tas d'acteurs pour réfléchir à la question des abris et cabanes non gardées. Les abris et cabanes non gardées, il y en a énormément sur le territoire du parc. Ils peuvent être publics, c'est-à-dire appartenant à des communes ou privées. Et leur objectif à ces abris et cabanes, c'est de pouvoir accueillir le visiteur, l'habitant de passage, pour se mettre à l'abri, pour passer un petit temps au sein d'un cocon. Et ces abris et cabanes, en fait, ils maillent le territoire et tous ne permettent pas d'accueillir dans un confort optimal. Et certains d'entre eux étaient en train de tomber un peu en ruine, entre guillemets. Et donc, face à ce constat-là, il y a ce petit groupe de travail qui s'est constitué pour réfléchir ensemble à aller rénover, remettre sur pied certains de ces abris et cabanes en profitant des aides financières de la région. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la qualité de l'accueil dans ces cabanes, de renforcer toutes les questions d'itinérance, parce qu'en fait, c'est un réseau d'abris et cabanes qui permettent de point en point de s'arrêter pour la nuit. Et puis surtout, ce projet avait pour idée première d'impliquer les citoyens et les acteurs locaux dans ces projets de rénovation. La plupart de ces projets de rénovation, finalement, c'est des projets qu'on pourrait dire, entre guillemets, en circuit court, puisque souvent le bois a été récolté dans la forêt voisine, et, il a été séché, il a été scié par le scieur local et il a été souvent construit par les artisans locaux, construit, transformé en cabane par les artisans locaux et les citoyens. Et enfin, l'objectif principal, c'était de transmettre ce patrimoine et d'y veiller collectivement en tant que véritable bien commun. Donc face à ça, pardon, hein, je parle beaucoup, mais
non,
je m'arrête bientôt. En lien avec ce projet-là, il nous a semblé vraiment très très intéressant de pouvoir apporter un autre regard à ces abris et cabanes, un regard plus artistique, plus culturel. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de la compagnie Tête en Terre, qui fait un super travail et qui va aller s'emparer de certains lieux pour en faire sortir, je dirais, la substantifique moelle, mais je vais peut-être laisser la parole du coup à Emeline pour la partie plutôt artistique.
Je voudrais, juste avant de continuer avec Emeline, ces cabanes ont des existences très anciennes ou alors est-ce que c'est construit, vous semblez dire que c'est construit en bois en général, mais est-ce qu'il y en a aussi en pierre ?
Oui, bien sûr. Alors, pardon, ça, je ne l'ai pas dit du tout. La plupart de ces cabanes, elles ont une histoire qui est très, très liée aux activités économiques, socio-économiques, parfois traditionnelles. Si on prend le Diwa, on a énormément de cabanes et ou abris liés aux vignes, liés à la lavande, liés aux activités finalement agricoles ou agro-pastorales qui ont parfois plus d'un siècle d'existence. Certaines ont été plutôt liées aux travaux de restauration des terrains de montagne. Donc elles ont toute une histoire vraiment particulière. Elles sont pour la plupart en pierre. Et aujourd'hui, dans l'optique d'une restauration, on utilise soit la pierre, évidemment, mais pour la plupart, enfin pour certaines, en tout cas celle de Côte-Chèvre, par exemple, celle pour laquelle on va peut-être dire un mot supplémentaire, elle a été reconstruite de toutes parts. Il ne restait que quelques ruines de pierre et juste à côté a été reconstruit un abri fait du bois qui a été trouvé sur place.
Je me tourne vers Emeline hein, pour la compagnie Tête en Terre. Pour vous, comment avez-vous abordé ces cabanes? Je vois sur le texte de présentation que c'est consécutif à une restauration de la cabane de la Pérouse.
Alors peut-être un mot sur la démarche de la compagnie Tête en Terre. Donc en fait, on est une compagnie, on a un projet depuis 2017 autour d'un peuple imaginaire, de personnages qu'on appelle des Têtes en Terre. Alors c'est pas évident à prononcer, à retenir, mais une fois qu'on s'en empare, ça a beaucoup de sens, en tout cas pour nous. Les Têtes en Terre, c'est des personnages qui incarnent l'épaisseur d'un lieu. Et l'épaisseur, nous on a appelé ça, en fait c'est ce qui constitue un lieu à la fois dans sa matérialité concrète, la faune, la flore, ce qu'on peut trouver, parfois on trouve aussi des déchets sur un lieu, et aussi les récits qui y sont attachés. Donc les récits de toutes sortes, ça peut être des savoirs constitués, l'histoire, la géologie, ou alors ça peut être vraiment des anecdotes, des récits, des légendes qui sont du côté de l'oralité et parfois de l'oralité même individuelle. Donc nous, on va, pour chaque tête en terre, pour aller sur leurs traces, on s'immerge dans un territoire pour saisir quelque chose de cette épaisseur. Alors c'est toujours à un moment donné. Donc c'est pas voilà, la substantifique moelle, même si j'aimerais bien Noélie, mais voilà, c'est pas autant que ça. C'est beaucoup plus humble. C'est à un moment donné, en fonction des personnes qu'on rencontre, et on crée un personnage qu'on met en scène et qui est un tête en terre et qui dont on fait l'hypothèse qu'il a quelque chose à nous dire sur le lieu, mais aussi sur notre rapport au monde, au vivant, mais au monde en général. Et donc ça, c'est un projet voilà, qu'on développe depuis 2017 sur différents sites et avec différents partenariats. Ce qui là est particulier cette année avec le parc, c'est qu'on s'est centré sur trois sites qui à la fois sont différents, puisque c'est voilà, il y a La Pérouse à Saint-Andéol, Côte-Chèvre à Aulnonnières à Châtillon, et puis Fontfroide à Lançon-en-Vercors et Villard-de-Lans. Et en même temps, ils ont ce point commun très fort d'être des cabanes non gardées où on peut venir s'abriter sans demander d'autorisation. Donc c'est effectivement un bien commun, comme disait Noélie. Et en plus, ils ont cette histoire singulière sur chaque site, mais aussi une histoire récente commune autour de ce projet de rénovation. Et donc à chaque fois, nous, on s'est immergé dans chaque site. Donc ça, c'est un repérage sur place, c'est une exploration concrète, mais c'est aussi des rencontres avec des personnes qui ont pu se rendre disponibles à ce moment-là, et puis des lectures de la documentation qu'on a pu nous transmettre. Et à partir de ça, voilà, on a fait apparaître, ou en tout cas, des têtes en terre sont apparues, et l'idée des restitutions à venir. C'est justement de présenter ces apparitions et de présenter le compte-rendu de notre étape, de notre recherche, parce que la question, c'est bah, quelle est la place particulière des têtes en terre dans ces cabanes, autour de ces cabanes? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire de ces sites? Et voilà, et ça, on a à cœur de le partager avec le public et peut-être aussi d'enrichir justement notre recherche qui est toujours en cours et qui, voilà, comment dire, qui se précise en fonction des rencontres qu'on fait.
Pour cela, vous avez créé le CERTET, un centre d'études et de recherche en tétentérologie. Et cette mission que vous avez est celle de peut-être aller aux sources aussi de ces récits et légendes sur chaque localité pour produire ce spectacle ou cette présentation.
Oui. Tout à fait. Donc, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais je suis comédienne, mais je suis aussi tête-entérologue. Et donc, on est un petit groupe de tête-entérologues et d'apprentis tête-entérologues. Et on, voilà, quand on va sur les traces d'un tête-en-terre, on est vraiment dans une posture d'enquête et surtout d'écoute du lieu dans voilà, toutes ces dimensions et sa diversité. Et c'est là où il y a quelque chose qui était très enrichissant dans le partenariat avec le parc. C'est, il me semble qu'on a voilà, en commun de valoriser la multiplicité des points de vue et leurs rencontres qui enrichissent voilà, l'expérience humaine et du territoire.
Noélie, ces cabanes situées sur le plateau et même sur le Diois existent donc. Est-ce qu'il y a aussi cette obligation peut-être de les maintenir en état pour leur mission, c'est-à-dire celle d'abriter les promeneurs?
Oui, alors en tout cas, je ne sais pas si on pourrait parler d'obligation. En tout cas, il y a évidemment, je ne crois pas forcément d'aspect légal, ou en tout cas pas à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y a plutôt un grand intérêt de pouvoir les maintenir parce que c'est aussi des outils, des objets, des biens communs, en fait, on le disait tout à l'heure, qui permettent une autre forme de tourisme sur le territoire, en l'occurrence l'itinérance à pied en premier lieu, mais pas que, hein, et qui permettent du coup de pouvoir s'immerger dans différents paysages et d'être abrités par ces cabanes qui ont énormément de choses à nous dire, à la fois par leur aspect ben, architectural, par leur présence dans des paysages. Enfin voilà, des fois on se demande pourquoi il y a une cabane ici. Il y a toujours une raison de pourquoi il y a une cabane ici, et que peut-être il y a une cinquantaine, soixantaine d'années, voire il y a une centaine d'années, et ben le lieu que l'on voit aujourd'hui avait d'autres usages, essentiellement agricoles ou forestiers. Et en fait, c'est une manière aussi d'apprendre du territoire qui est assez, comment dire, qui est assez douce, qui est assez intime, et qui, en plus d'avoir ce caractère-là d'apprentissage et de découverte d'un lieu dans toute son épaisseur, comme diraient les tête-entérologues, a un côté tout à fait utilitaire, qui est celui d'abriter des personnes pour une nuit, lors d'un orage, pour se réchauffer, voilà.
Ces communes qui sont impliquées dans cette présentation, de ces présentations, on peut noter donc Saint-Andéol, Les Nonnières et puis Lens-en-Vercors. Il y a un
Oui.
partenariat avec ces communes justement pour.
Oui. Oui. Alors, évidemment, le projet global, donc, qui consiste à accompagner la rénovation de ces cabanes de manière participative, il y a un partenariat très fort avec la commune, parce qu'évidemment, c'est la commune, finalement, qui est, ou le propriétaire de la cabane, qui est porteur du projet en premier lieu. C'est lui ou elle, à un moment, qui décide de faire appel au parc du Vercors pour dire: là, on a quelque chose, on a un objet, on a une cabane, on aimerait la rénover, comment est-ce qu'on peut faire ensemble? Et nous, on va venir plutôt dans l'accompagnement, ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie financière, où on va aller trouver les financements pour le faire. On va essayer d'assembler un peu les compétences pour que ce projet soit finalement un projet collectif. Et donc, a été fait le choix cette année de travailler avec ces trois communes, donc Lens-en-Vercors, Villard-de-Lans pour la cabane de Fontfroide, Châtillon-en-Diois pour la cabane de Côte-Chèvre-Nonnières, et Saint-Andéol dans le Trièves pour la cabane de la Pérouse, parce que ces cabanes avaient été rénovées, ont été pour la plupart inaugurées cette année, et on avait à cœur en fait de pouvoir porter un autre regard sur cette rénovation. Donc évidemment, le partenariat, il est très très fort avec les communes et ou les propriétaires pour faire monter la sauce, pour faire participer, et du coup encore plus sur ces trois cabanes avec le projet de création artistique et des tête-en-terre, aussi beaucoup appuyé pour rencontrer les bonnes personnes, pour les rassembler, et seront mis.
Alors, Emeline, ce partenariat, il y est aussi avec ces communes à laquelle vous vous êtes approchée justement pour essayer de connaître un peu l'histoire de chaque lieu et peut-être aussi d'y prélever ces légendes qui existent sur chaque territoire.
Oui, alors effectivement, on est allé en équipe au moins 2 fois par site, et puis on a eu des liens par téléphone avec certaines personnes pour échanger. La base de la tête-entérologie, c'est vraiment d'aller sur le lieu et d'explorer concrètement et de recueillir les impressions que nous font ce lieu en partant des observations. Donc vraiment, voilà, la faune, la flore, les constructions, donc quelque chose de très très concret dans le sensoriel. Et ensuite, effectivement, de discuter avec les gens qui y habitent ou simplement qui y passent. C'est-à-dire que dans notre démarche, toute parole a une valeur et c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un par rapport au lieu où on se trouve. Donc ces personnes, ça peut être, en tout cas dans chaque site, il y a eu des personnes qui sont là, on va dire, depuis des générations, depuis toujours, donc qui ont une histoire longue à nous transmettre, mais aussi des anecdotes personnelles. Et il y a toujours, et encore plus sur ces sites qui sont fréquentés par les randonneurs, bah des gens de passage qui seront là pour une nuit ou quelques heures, et qui eux aussi ont une impression à partager, eux aussi ont entendu dire que. Donc c'est pas... Voilà, c'est pas forcément toujours une légende constituée et exclusive, mais souvent, voilà, c'est plein de petits récits différents. Et c'est pour ça que nous, voilà, on a à cœur de dire que le tête-en-terre, il est vivant, il est éphémère. Donc, c'est pas comme une mascotte du lieu. Il va être de passage et il incarne le lieu à un moment donné, en fonction des personnes qui y étaient à ce moment-là. Et peut-être que voilà, si on revient dans 6 mois, il sera un peu différent, même s'il y aura sûrement des points communs. Mais en tout cas, sur chaque lieu, on a rencontré effectivement des élus, on a été accompagnés par Noélie Ortega et puis Emmanuel Bosque à chaque fois, qui nous ont beaucoup transmis justement l'histoire des rénovations. On a rencontré des personnes de l'ONF, on a rencontré effectivement des randonneurs, échangé avec des bergers, avec des gens qui étaient intervenus sur la cabane, je pense à La Pérouse, il y a de ça plusieurs dizaines d'années. Voilà, donc on a été mis en lien avec des personnes particulières, des petits groupes, pour nourrir notre recherche.
Émeline, justement, les noms donnés à ces lieux, ces cabanes, celle de la Pérouse, le Côte-Chèvre ou le Fond Froide, déjà éveillent en vous aussi une intrigue de ces noms et de ce qui pourrait se rapporter aussi sur ces termes.
Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre recherche, à la fois, on est dans une posture de chercheur, mais on ne maîtrise pas vraiment ce qu'on découvre. On découvre aussi parfois des choses ensevelies ou des choses qui on aurait imaginé autre chose. Voilà, je pense à. Effectivement, en Côte-Chèvre, il y a le col pas loin. La Pérouse, on s'est beaucoup interrogé sur l'origine. On n'a pas percé le mystère totalement. Et puis, Fond Froide, effectivement, il y a la source pas loin. Mais en tout cas, on fait aussi, bien sûr, un travail, une rêverie, un travail poétique sur les noms. Et Fond Froide, il y a la réalité de ce que c'est, la réalité concrète, et puis tout ce que ça peut évoquer, justement, avec l'univers du froid. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de parler du froid donc, quand on est dans un abri où, justement, l'idée, c'est plutôt de se réchauffer, de prendre soin de soi. Et voilà, donc il y a à la fois, on va dire, l'exploration concrète des mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, à quoi ils sont rattachés dans l'histoire, mais aussi ce qui nous évoque. Et là, on part sur l'imaginaire qu'on partage. Et à partir de tout ce travail, on développe des hypothèses, mais on ne tranche pas. Voilà, la tête-entérologie, c'est une recherche qui est toujours en mouvement et qui a à cœur de mettre en mouvement aussi et de pousser chacun et chacune à suivre des pistes, à attiser la curiosité, à aller à la fois du côté du concret, mais aussi du côté de la rêverie, de l'imaginaire.
Ces événements n'auront pas lieu sur les lieux mêmes. Les rendez-vous sont donnés soit pour les Nonnières à Châtillon-Diois, la salle du Conseil, ou alors pour le 21 novembre à la salle Saint-Donat, à Lens-en-Vercors, et la salle des fêtes de Saint-André-des-Halles pour le Trièves. Et donc, il y aura 3 dates, hein, respectivement les 19, les 21 et 28 novembre. Alors, comment sera proposée au public cette étude de recherche?
Alors, il y aura dans ces soirées de restitution, on a imaginé donc avec Noélie qu'il y ait vraiment une partie qui puisse donner la parole à tous les acteurs et au travail qui a été fait autour de la rénovation. Et on l'espère avec des personnes qui ont, voilà, qui ont participé au projet depuis le début. Et nous, on arrive un petit peu en deuxième partie, donc le CERTET, et on va parler de ce qu'on a perçu de chaque lieu, alors d'un site en particulier, et révéler le tête-en-terre tel qu'on l'a aperçu et rencontré sur chaque site.
Noélie, vous êtes chargée de mission pour l'éducation. Justement, cette proposition s'adresse aussi aux scolaires.
Oui, alors évidemment, les plus jeunes sont les bienvenus. À partir de 7 ans, je pense que c'est plutôt bien. Ce qu'il est important de dire aussi par rapport à ce projet, c'est que la journée où aura lieu la restitution publique, on va animer un atelier par commune pour des groupes constitués. Et prioritairement pour Châtillon et Saint-Andéol, ce sera avec les plus jeunes. Donc Saint-Andéol, on va le faire avec l'école voisine qui est en regroupement pédagogique intercommunal. Et puis pour Châtillon, on va travailler avec l'Abracadabra et donc les jeunes dans le centre de loisirs, pour qu'ils s'imprègnent aussi de la tétentérologie, fabriquent leur propre tétentère, ou en tout cas commencent à le faire, et puis aient aussi un petit temps de réflexion sur qu'est-ce que c'est pour eux une cabane.
Je reviens un peu sur cette fonction qu'avaient ces cabanes, celle de l'abri, hein, notamment en cas d'orage. Je pense que ça permettait d'être à l'abri, mais aussi pour stocker le matériel ou entreposer.
Oui, tout à fait. Alors, on a un bel exemple justement aux Nonnières où vraiment la cabane de Côte-Chèvre était très très liée aux activités agro-pastorales. Et juste en dessous du col de Côte-Chèvre, quand on s'enfonce un petit peu dans la forêt, on retrouve aussi un abri qui était là pour stocker l'alambic pour la lavande. Donc, effectivement, ces cabanes, elles servent de lieu de stockage humain, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, pour se protéger du froid ou passer la nuit et attaquer les travaux des champs très tôt le lendemain, par exemple, mais aussi à stocker du matériel agricole, comme c'est le cas, par exemple, pour l'abri de l'alambic ou d'autres.
Et culturellement, sur ces cabanes, et vis-à-vis des habitants de la population, est-ce que c'était aussi un lieu où cela permettait de se retrouver, de peut-être festoyer, je ne sais pas, je pose la
Oui.
question.
Oui, alors on sent en tout cas un attachement assez fort des habitants des villages avec lesquels on a travaillé, des communes avec lesquelles on a travaillé. Sur Côte-Chèvre, c'était vraiment un lieu même familial, hein, puisque la cabane est une. Donc l'ancienne ruine est sur un terrain privé. Et du coup, les propriétaires s'y retrouvaient pour les travaux. Et sur la commune, sur la cabane de Fontfroide, à Lens-en-Vercors, Villard-de-Lans, on a recueilli, avec Emeline hein, d'ailleurs, quelques photos et puis des anecdotes où c'était un peu la balade du dimanche. Dans les années 60, des familles montaient pour ramasser des narcisses. Et ça peut constituer des lieux de retrouvailles, effectivement, aussi.
Emeline, au fil du printemps et de l'été et automne 2025, ces apparitions, comment se sont-elles concrétisées?
Alors, c'est vrai que l'apparition d'un tête-en-terre, c'est assez particulier. Je vous invite à venir à la prochaine recherche. L'idée, c'est que nous, on a compris, au CERTET, que quand on cherche, on trouve. Et donc, quand on se met dans la posture de chercheur sur un site, au bout de quelques jours, le tête-en-terre apparaît. Et là, il se passe quelque chose d'assez incroyable, magique, puisque c'est une présence qui est à la fois espérée, puisqu'on est là quand même pour ça, nous, et en même temps toujours inattendue, et c'est toujours un cadeau de plus que de voir apparaître un tête-en-terre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, ils sont très différents, ils sont toujours faits des matières du lieu, des matières concrètes, et quand on y réfléchit, quand on revient et que une fois que l'émotion de la rencontre redescend un peu, on fait des liens vraiment avec ce qu'on a perçu. Voilà, celui de la Pérouse. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce
Non.
que le secret est bien gardé. Il faut venir aux restitutions pour les découvrir. On s'attendait pas, voilà, on s'attendait pas à un tête-en-terre comme ça. On s'attendait, compte tenu du lieu, à un tête-en-terre qui serait plutôt austère, rude, froid. Et il était pas du tout comme ça. Donc c'est aussi la surprise et là aussi la curiosité où dans ce jeu qu'on développe, qui est un jeu un peu sérieux, et ben on a voilà plein d'émotions différentes et une rêverie qui s'ouvre, mais c'est vrai que c'est assez difficile d'en parler sans rentrer dans le détail de ces créatures parce que elles sont toutes voilà faites de matière et je dirais que je vous invite vraiment à venir lors des soirées pour qu'on puisse en parler très concrètement et puis pour que chacun puisse les voir, même s'il y aura aussi une possibilité de les voir dans les abris.
Est-ce que
puisqu'il y aura,
oui.
Oui.
Pardon. Est-ce que les têtes en terre ont aussi cette possibilité de pouvoir parler?
Alors aujourd'hui, nous, on n'a pas recueilli de langage de têtes en terre. Par contre, on a développé des recherches autour des proverbes des têtes en terre et on fait l'hypothèse qu'ils ont aussi des proverbes, notamment, voilà, c'est pas avoir la tête en l'air, mais avoir la tête en terre. Et donc, à partir de ça, effectivement, on fait l'hypothèse qu'ils ont une culture, hein, et qu'il y a encore plein, plein de choses à découvrir. On a aussi des questions sur la musicalité, en tout cas, associée aux têtes en terre, parce que souvent, à chaque apparition, il y a quelque chose autour du son qui apparaît et qui est différent en fonction de chaque lieu. Souvent, c'est associé à des chansons assez anciennes, voire des ritournelles ou des comptines, ou parfois quelque chose qui est sans parole. En tout cas, c'est un peu pour transmettre qu'au-delà des créatures isolées, il y a vraiment l'idée que c'est un univers et qu'il y a des liens entre tous ces têtes en terre et qu'on a très envie de découvrir tout ça. Et c'est ce qu'on travaille notamment avec les publics quand on fait des ateliers comme a dit Noélie, on s'appuie aussi sur les hypothèses des personnes qu'on rencontre. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé à Trémini avec des élèves qui ont réfléchi sur est-ce que les têtes en terre font la fête et si oui, comment ils font la fête? Et voilà, d'essayer d'en savoir plus là-dessus.
Tête en terre, c'est à l'opposé d'être tête en l'air, hein.
Alors, c'est vrai que tête en terre, c'est nous, le serre-tête, qui avons donné ce nom à ces créatures. L'idée, c'est comme ils incarnent un lieu, c'est un petit peu, effectivement, c'est pas une représentation qui est hors sol, c'est vraiment une incarnation de ce qui est là et dans toute sa matérialité. Donc, c'était presque plutôt l'idée, c'est pas juste une idée, un tête en terre, c'est quelque chose de très concret et de très vivant aussi. Après, j'opposerai pas directement avec tête en l'air, mais il y a quelque chose de bien ancré dans le sol pour les têtes en terre, même si on va dire que le côté étourdi nous intéresse aussi dans nos recherches, parce que quand on est étourdi, on a plein de surprises aussi et on peut découvrir d'autres choses sur un lieu.
Ces trois rendez-vous qui débuteront tous à 18h. Permettent donc d'écouter un peu ce travail du serre-tête et aussi de cette présentation par des représentants locaux. Et qu'est-ce qu'il y aura autour de ces présentations? Est-ce qu'il y aura un peu de convivialité également?
Oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de se retrouver dans un moment de partage et de convivialité. Il y aura un petit coup à boire à la fin pour célébrer tout ce travail. Et puis, ce qui est vraiment très important, je ne sais pas si on l'a dit avec les bons mots sur ces moments de restitution-là, c'est qu'à chaque fois, on découvrira, on dévoilera l'image qu'a laissée le tête-en-terre lors de son apparition. Donc, pour chacune des cabanes, il y a eu un tête-en-terre différent, évidemment. Et donc, à chaque fois, sera révélé à la fois la manière dont il est apparu et sera révélée la photographie, puisque sa trace a été, l'apparition a été captée par un photographe. Et donc évidemment qu'on vous invite à venir lors de ce moment convivial, mais si jamais vous ne pouvez vraiment pas, on vous invite très fortement à aller découvrir chacune de ces cabanes, déjà pour la beauté architecturale et la qualité des rénovations, et aussi et surtout parce que la photographie du tête-en-terre sera accrochée dans chacune des cabanes avec un petit résumé de son apparition. Donc finalement, chacune de ces trois cabanes, à partir de bientôt, sera porteuse du tête-en-terre du lieu.
Emeline, Tête en Terre, c'est un collectif d'artistes. Vous êtes une équipe, donc, et d'artisans également. Quand on parle d'artisans, c'est aussi ces personnes qui ont prêté à la main à ces restaurations, ou alors vous proposez d'autres aspects?
Alors, le collectif Tête en Terre, effectivement, on est un groupe d'artistes et d'artisans. Effectivement, on se présente comme ça pour insister sur le mélange entre comment dire, pratique artistique un peu classique et professionnelle, et aussi le côté amateur. Et puis, on va dire tout cet aspect qu'on passe souvent sous silence dans le milieu artistique, qui est le côté fabrication concrète et qui est, on va dire, pas forcément reconnu comme une pratique artistique, mais qui est qui en partic qui y participe. Et en tout cas, nous, on le valorise et on en a besoin. Et pour le côté rapport à la matière, donc dans ce groupe, on est il y a effectivement des comédiens, comédiennes. Metteur en scène. Il y a aussi une personne qui est plutôt voilà, dans l'environnement, une personne qui est ethnobotaniste, un graphiste, des musiciens, une costumière. Et en fonction des projets, et c'est encore plus le cas sur la tête en terrologie, chaque personne peut être mobilisée à un moment donné. Donc là, sur le projet, on était 8 à être mobilisés. Différemment selon les cabanes et selon le projet global.
Noélie Ortega, ces trois propositions tendraient-elles à se répéter dans peut-être l'année prochaine?
Oui, alors du coup, tout dépend évidemment des financements que l'on arrive à aller chercher. Là, cette année, c'est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a fortement accompagnés sur ce dispositif. Et l'envie, c'est bien sûr de pouvoir poursuivre un éclairage culturel, artistique, pour parler de ces cabanes et faire un petit pas de côté, faire un petit pas de côté en essayant de multiplier les regards pour pouvoir les regarder avec nos yeux et avec tous nos sens. Donc on a très envie l'année prochaine de pouvoir continuer avec d'autres cabanes qui sont dans le processus du projet Abri Cabane de restauration. On attend encore voilà, certains financements notamment pour pouvoir poursuivre.
En tout cas, il y a eu un engouement de la population pour rénover et restaurer ces cabanes.
Oui, on sent que ça leur a donné alors, pas un nouveau départ, parce que tous sont bien conscients de l'histoire qu'elles ont pu connaître, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie appropriation pour je le répète, excusez-moi, ça fait 3 fois que je le dis, mais pour ce bien qui est un bien commun.
Et pour prendre contact, ou est-ce qu'il y a lieu de réserver peut-être pour assister à ces représentations?
Non, on n'a pas mis en place de réservation. Si les auditeurs sont intéressés, il y a toutes les informations sur le site internet du parc, les réseaux sociaux de la compagnie Tête en Terre et du parc du Vercors. Et si vraiment il y a des questions très très précises, eh bien on peut passer un petit coup de fil et je donne le téléphone, ça ira plus vite.
Oui.
Alors, c'est parti. On peut passer un petit coup de fil au 06 99 08 32 27.
Voilà. Et Emeline Dumouya, pareil pour vous, la compagnie Tête en Terre. Au-delà de ces trois propositions, quelles sont d'autres en vue?
D'autres perspectives?
Oui.
Alors, nous, on a On a travaillé sur un projet là sur le Vercors Sud, qui était une dynamique culturelle autour du festival du Bazar cette année. L'année prochaine, d'autres perspectives vont sûrement s'ouvrir et être menées avec certains acteurs du collectif du Bazar sur le territoire. Mais voilà, à suivre. Et puis, on a toujours quelques spectacles et des projets d'ateliers. Beaucoup, beaucoup autour du masque et avec des enfants notamment.
Eh bien, je crois que l'émission se termine. Je vous remercie en tout cas Emeline Dumouya et Noélie Ortega de nous avoir accordé un peu de votre temps à RDWAP pour présenter Tous à l'abri. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup Yves.
Au revoir.